Il y a des longs cours qui commencent un peu sur le vide éclaté d'un paysage, sur des endroits plus jaunes que d'autres, avec des arbres qu'on reconnaît entre tous. Vous voyez le vent ? La feuille tourne, elle passe du vert au blanc, à l'argenté, elle redevient olive. Vous êtes au pays le plus chaud d'Europe peut-être, chaud par son sang, sa terre, jaune, rouge, un drapeau. Un taureau, des oliviers, l'Espagne, l'Andalousie, en pensant déjà aux Amériques. Il y a des côtes auxquelles on rêve, des côtes qui sont aujourd'hui détruites. Torremolinos, plus loin Gibraltar, et des hôtels qui ne sont pas toujours ceux qu'on aimerait voir à cet endroit. Bon, oublions peut-être ces plages, prenons certains de ces villages qui sont restés un peu plus mauresques, un peu plus blancs, ces fameux villages blancs qu'on retrouve facilement à l'intérieur de l'Andalousie, mais là, face à cette Méditerranée, c'est en descendant de Grenade et en plongeant sur la partie sud, juste avant de revenir sur Malaga, que de temps en temps on trouve encore un tout petit rien, un tout petit coin de pêcheur avec un bateau. Un pêcheur lui-même qui est perdu au milieu des touristes. Mais c'est dans ces cas-là qu'on aimerait regarder le ciel, regarder la mer. Seulement ce coin de filet et ce bateau. Mettre un frein à l'histoire, un frein à l'urbanisation qui est actuellement présente sur les côtes d'Espagne. Et revenir en arrière. Mais pas simplement d'une centaine d'années, non, carrément. Remonter jusqu'au 6e, au 7e, au 8e siècle, je vous dirais même peut-être au début de notre ère. Si on visitait l'Andalousie par ce côté-là, on comprendrait qu'elle est avant tout romaine, qu'elle a été visigothique et qu'elle est un jour ou l'autre arabe. Une Espagne qui est indétournable, une Espagne qui crie avant, après, qui criera encore 92, qui criera parce que c'est vrai que c'est l'Europe, c'est vrai que quand je regarde la carte une fois de plus, je remarque que la petite tache verte qui s'y trouve est accompagnée d'une tache jaune. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne, c'est une immense péninsule, mais il y a de l'eau partout autour. Et puis il y a des terres, un intérieur qui est complètement aride. C'est vrai que c'est à la fois Don Quichotte et Christophe Colomb. Mais revenons peut-être pour quelques instants à ce sud, à cette naissance de l'Andalousie. J'aimerais qu'on pense aux premiers Carthaginois qui sont venus chercher un peu de métal précieux dans cet endroit. J'aimerais qu'on repense à Tartessos et qu'on se retrouve ensuite à Italica. Vous rentrez sur le site, vous êtes un peu au nord de Cordoue, juste au bord de cette immense vallée du Guadalquivir. Vous montez, vous avez laissé votre transport en dessous, vous montez et vous vous dites, tiens, c'est vraiment une sorte de balcon, c'est étrange. On est sur la Sierra, dans cette Sierra de Séville, je disais Cordoue, en fait c'est plutôt près de Séville, bien sûr, vous m'aurez corrigé. Et en définitive, Italica, c'est un endroit, parce que je confondais avec Medina et Sara, qui elle est vraiment près de Cordoue. Et ce sont les deux sites du Guadalquivir qui sont déposés comme ça en bordure de la vallée. Alors revenons du côté de Séville, revenons à Italica, montons maintenant vers ces ruines. Je voyais pourtant bien l'image, je voyais ces cyprès, et surtout ce calme. Je dirais un calme romain, parce qu'une ruine romaine en Espagne, elle a quelque chose d'étrange. Il y a d'abord l'amphithéâtre, immense, disproportionné, quand on sait que des dizaines de milliers de personnes se pressaient là les jours de fête, devant cette vallée qui au fond a été relativement respectée, parce que le Guadalquivir c'est du limon, le Guadalquivir c'est du transport, c'est la possibilité de monter en bateau, ces galères qui étaient là depuis la côte, déjà, oui, cette région était exploitée sur le plan navigable, et puis il y avait naturellement l'agriculture, cette richesse incroyable qui en a fait un grenier fantastique. Dès le départ. Italica, vous montez plus haut et vous voyez la première mosaïque. Vous savez, ces mosaïques blanches, grisailles, qui paraissent un peu vieillies sous ce soleil brûlant, juste coincées entre quelques cyprès. Vous n'avez pas le droit de vous approcher, c'est une matière un peu délicate. La restauration a été précieuse, précise, mais retrouvez là, tout à coup, Hercule, un petit rien avec des dauphins, retrouvez ce qu'on a l'habitude de voir plutôt du côté de la Calypso, du côté, je ne sais pas, au large de Capri, près de Rome. Enfin, on a cette notion de l'exotique. Pourtant, lorsqu'on ouvre les yeux autour de soi, on sent en même temps cette côté, oui, cet aspect âpre de l'Espagne. C'est curieux de voir qu'une villa romaine avait gardé cette luxure qui venait de là-bas, dans un milieu, dans un climat qui, au contraire, nous ferait plutôt planter du bois, de la pierre, mais un peu brut, un peu justement ce qui viendra après, c'est-à-dire le côté visigoth. L'Espagne est faite pour être un peu barbare au départ, et pourtant le romain va apporter cette première étincelle. On reviendra à Italica. C'est là, c'est aussi à Cordoue, dont je parlais tout à l'heure, que sont nés des gens comme Sénèque. Rappelez-vous de Sénèque. Et oui, aussi une façon de vivre, une philosophie qui a quelque chose à l'intérieur. Vous entendez la musique ? Elle sourd, elle vient déjà de l'Inde, elle vient déjà d'ailleurs. Elle est plus tardive, elle est gitane, mais en même temps, on sent cette âpreté. Pour être Sénèque, pour être un stoïcien, il fallait naître en Espagne. Il est bon de temps en temps d'être devant une page blanche. Je prends juste des notes, mais après en avoir parlé, je veux dire par là que je viens de noter Sénèque et j'ai envie d'ouvrir un tiroir. Je suis parti de Cordoue et je suis déjà à Rome. Oui, j'ai pris cette galère et j'ai passé du côté de Marseille qui existait déjà. Bien sûr, notre Sénèque, il intervient dans ce même climat qui vont faire des Scipion l'Africain, qui vont faire des Adriens, qui vont faire des empereurs qui sont hispaniques. Mais il y aura naturellement cette notion étrange de cette philosophie qui pour moi est vraiment la naissance de l'Espagne, d'une certaine Espagne. Revoyez la scène. Vous êtes à Rome. Une Rome déjà lascive, déjà extraordinairement riche. Et vous avez, vous savez, je n'ai pas de notes historiques, mais ça me rappelle Agrippine, bien sûr, mais ça me rappelle surtout le travail de ce Sénèque. Devoir s'occuper, comme on dirait, être professeur aujourd'hui, devoir être précepteur d'un jeune garçon un peu fou. Avez-vous déjà regardé un portrait dans un musée de Néron ? Néron jeune, Néron ce fou, effectivement, qui va jouir de l'incendie de sa propre ville, de cet homme qui va désobéir systématiquement à ce grand philosophe, de cet homme qui va permettre d'assassiner les premiers chrétiens, un martyr qui est bien romain et qui au fond nous appelle déjà à comprendre la suite de l'histoire espagnole, parce que quand on dit Espagne, écoutons peut-être encore un peu de musique, mais il y a de la ferveur, il y a de la folie religieuse derrière le mot Espagne. Je suis toujours à Rome. Je suis toujours, vous êtes toujours à la fois Néron et Sénèque. On a incendié la ville, on a vu ces premiers chrétiens qui sont dévorés dans les arènes, et puis il y a ce dernier acte, qui est un acte qui pour moi est encore plus espagnol. Je n'aime pas la tauromachie. Le technicien Adrien qui est en face de moi non plus. C'est vrai qu'il n'aime pas voir un taureau qui meurt dans l'arène. Et pourtant, je dis et pourtant, ce sang, cette matière, est une matière horriblement espagnole, peut-être, mais espagnole d'abord. Et au fond, la mort de Sénèque, c'est encore une scène de tauromachie. Une scène où malgré tout, bien sûr, dans la tauromachie, il y a l'homme, il y a l'animal, mais il y a surtout le fait que tous les deux peuvent mourir. Bien sûr qu'il n'y en a qu'un qui meurt, normalement, parce que l'homme est l'homme. Mais c'est Sénèque qui reçoit l'ordre de Néron de se tuer. Et qui, vous le voyez, il est âgé, il vient de se trancher les veines, des bras, des poignets, et puis il refuse de mourir. Son corps reste chaud, il est là, il ne peut pas mourir. Il demande qu'on lui prépare un bain chaud. Il est déjà en sang, il se plonge dans ce bain, il ne meurt toujours pas. Et il finit par s'empoisonner, d'après ce qu'on raconte. Une scène qui a dû être absolument atroce, la mort d'un stoïcien qui en fait finit par hurler à l'égard de sa propre philosophie. C'est une scène qui me paraît aussi très espagnole. On me dirait que je suis un peu léger dans les faits historiques et les comparaisons, mais on est parti de Cordoue, on est parti d'un endroit qui ne ressemblait pas du tout à la Cordoue que vous avez dans l'œil. C'est une Cordoue romaine, d'une famille riche, et en même temps, là-bas, vous aviez Italica tout à l'heure, dans cette fantastique vallée, un peu plus bas dans la vallée du Guadalquivir. Laissons peut-être les Romains s'évanouir, mais vous avez compris que si j'ai parlé de Néron, si j'ai parlé de ce cirque romain, c'est que les chrétiens vont arriver très très tôt en Espagne. Une histoire qui va en fait se démontrer par des actes un peu fous. Les Prisciliens, par exemple, ces sectes qui, dès le départ, vont s'inventer en Espagne avec une ferveur, une folie de ferveur qui ne font pas oublier qu'en fait les grands-pères de l'Église, dont par exemple le fameux Isidore de Séville, sont bien nés là-bas en Espagne et que les premiers conciles les plus forts, les plus puissants, ont été déjà à quelque part espagnol. Je veux dire que cette foi qu'on ressent encore aujourd'hui lorsqu'on voit sortir une vierge d'une église à Séville ou ailleurs, eh bien cela se sent déjà à la hauteur de l'époque romaine. Les martyrs chrétiens d'Espagne sont des martyrs absolument fous qui nous préparent déjà à une autre formule, à une autre guerre de religion. Et oui, on est déjà dans cette nouvelle époque. Les Visigoths vont déferler comme tous les barbares sur l'Europe, toucher l'Espagne. Et c'est une petite ville, encore inconnue, mais fantastiquement située. Oh, on pourrait la visiter en la voyant même avec l'œil d'aujourd'hui. J'aimerais vous emmener, oh, ce sera un puzzle, ce sera un voyage aujourd'hui un peu comme cela, en touche à tout. J'aimerais vous emmener à Tolède, la capitale visigothique. Cette époque visigothique, comme ça, de but en blanc, je me rappelle d'assez peu de choses. Je me rappelle du dernier roi visigoth. C'est une histoire assez belle. Vous êtes dans la vallée de Guadalete, si ma mémoire est bonne. Et puis, vous avez une dernière bataille qui va se livrer contre les nouveaux venus. Ces gens qui vont passer... On parlait de la côte tout à l'heure, on était du côté de Malaga. On est descendu dans ce qu'on appelle aujourd'hui Gibraltar, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange en face. Avez-vous déjà pris un bac pour traverser jusqu'à Ceuta? Avez-vous déjà abordé le Maroc par l'Espagne? Ben oui, vous descendez en voiture, vous longez les côtes, et puis vous attendez ce bac, et il y a même les oiseaux, même l'air, l'odeur, il y a quelque chose d'étrange. Vous vous dites, attention, je change de continent. Et vous le sentez? C'est involontaire, toute cette partie, tout ce croissant qui est au sud de l'Afrique, au sud de la Méditerranée, cette Afrique, elle nous fait songer à quelque chose d'encore plus exotique. C'est vrai que derrière nous, on sent un peu la même attitude lorsqu'on est en Espagne. Mais cette attitude, vous la sentez aujourd'hui, à l'époque, c'était l'inverse. On appelait ces gens-là, on était envieux de cette Afrique qui venait de naître à travers les fantastiques chevauchées des musulmans. Revenez par exemple à la Mecque, retournez à Médine. Dites-vous que l'Égir vient de se terminer, vous êtes en 622. Et comme ça, on va débouler sur tout ce nord du continent avant de vous toucher, de passer Djebel el-Tariq et de, mais oui, de subir cette grande bataille où ce dernier roi, Visigoth, va lutter. À la fin, il n'y aura que boue, il n'y aura que charnier, des centaines, des milliers de petits chevaux arabes qui tourbillonnent dans cette plaine, et puis un cheval blanc tout seul, et puis un brodequin travaillé, à peine encore visible, décoré d'or et d'argent, un roi qui maintenant a disparu, une dynastie qui tombe, Tolède. Allons à Tolède, revoyons ce qu'elle était visigothique et ce qu'elle va devenir musulmane. Cette légende de cette pièce, une pièce étrange, une pièce qu'on dit fermée, une pièce qu'aucun roi de l'époque visigothique n'avait osé ouvrir. On disait qu'à l'intérieur il y avait un message, qu'il y avait des peintures, qu'il y avait des fresques, qu'il y avait un trésor. Et ce dernier roi, juste avant de partir batailler contre le musulman, lors de son avènement, avait osé ouvrir cette construction un peu étrange. Imaginez quelque chose d'octogonal avec une grande porte blindée, cloutée. Et à l'intérieur, on dit que seul, il a pénétré et que tout à coup, il a vu contre les murs des chevaux, mais surtout des hommes étranges avec un turban sur la tête. Tolède, c'était ça. Mais la Tolède d'après, celle qui va être occupée par les musulmans, c'est une Tolède encore plus folle. Parce que quand Tariq va arriver, Jebel El Tariq, Gibraltar, ce petit capitaine qui a réussi à passer avec ses chevaux, qui a déferlé d'un seul coup, regardez, courez à travers la carte et vous verrez que de partir de Gibraltar et de foncer sur Tolède, c'est déjà traverser toute une partie de l'Espagne. Tolède, ça n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de la Madrid d'aujourd'hui. Tolède, c'est cette enveloppe extraordinaire. Vous êtes sur le rocher en face. Vous imaginez la ville telle qu'elle était. C'est vrai que le Tage était déjà là, qu'il y avait peut-être déjà un ou deux ponts de bois. Il y avait en tout cas une partie centrale sur le rocher bien défendue, imprenable pratiquement. Et puis, il y aura là des trésors, parce que la pièce dont je parlais tout à l'heure, elle était peut-être vide, il y avait simplement cette peinture étrange. Mais on parle d'une table qu'on appelle la table de Salomon, une table qui aurait eu 365 pieds, qui était couverte de pierreries incroyables. Bah, je me rappelle de tout cela, je l'ai lu même quand j'étais enfant, mais ça m'est resté en tête, parce que quand Tariq est arrivé à Tolède, il s'est emparé de cette table magique, je voulais appeler de Salomon, donc il y avait une idée de connaissance, il y avait tout ce passé que j'évoquais tout à l'heure, ce christianisme un peu curieux qui passe déjà par le judaïsme. Tout cela est à Tolède, c'est la capitale. Et puis, il y a le supérieur, ou celui qui aurait dû être le supérieur de Tariq, qui est terriblement jaloux. Au point que il va prendre cette table afin de l'offrir là-bas, du côté de l'Orient, au grand chef des croyants, pour faire comprendre que c'est lui qui a envahi ce nouveau territoire, qui a touché pour la première fois ce qu'on n'appelle pas encore l'Europe, mais enfin cette péninsule incroyable qui est de l'autre côté de la mer. Celui qui aurait passé ce détroit de Jebel El Tariq, s'il porte encore le nom de Tariq, c'est que ce n'est pas Moussa qui a pu faire cette conquête. Il arrive, j'aimerais qu'on reporte la scène. Elle est plus orientale, elle est particulière, on retraverse maintenant les mers. Il y aura conflit. Il y aura conflit entre ces deux hommes, et naturellement un chef des croyants, vous le voyez sur son trône, peut-être assis en forme de tailleur. Et vous l'imaginez, ayant appelé le Tariq et le Moussa, de là-bas, du bout du monde, où ils sont partis sur leurs petits chevaux, il les ramène vers le centre. Et il veut les interroger. Il a fait son enquête, bien sûr. C'est une scène un peu dramatique, en deux temps. Bah, on va peut-être la vivre, simplement pour comprendre que si Sénèque est mort dans le sang, les Arabes n'étaient pas beaucoup plus gais. L'Espagne se prépare. Thank you. qu'on soit calife, qu'on soit sultan, mais calife d'abord, chef des croyants, qu'on soit là-bas, au cœur du monde oriental, au début de cette puissance, regardez la carte. En moins de 20 ans, on va couvrir tout ce qui correspond à la Méditerranée. Tout est pratiquement musulman avant les années 750. Et vous êtes le chef. Vous avez patienté avant d'appeler Moussa et Tariq. Et vous avez appris, par vos espions, il y en a partout. Vous n'êtes pas musulman pour rien, vous n'êtes pas ce conquérant pour rien, ce chef des conquérants croyants. Vous avez su que le fils de Moussa, là-bas en Espagne, était tombé amoureux d'une chrétienne. Un péché déjà pour l'époque. Il était interdit de se marier ou de vivre et de faire des enfants sans avoir converti cette nouvelle épouse, sans avoir transformé l'infidèle en fidèle musulmane. Erreur du fils. Mais Moussa est maintenant devant le calife et il présente la table de Salomon comme étant la pièce à conviction en disant « C'est bien moi qui ai pris la capitale wisigothique, c'est moi qui suis le conquérant, c'est moi qui ai été pratiquement, je plaisante, mais arrêté à Poitiers. » Tariq, à ce moment-là, sort un pied. Il n'y avait plus que 364 pieds sur la table. C'était sa pièce à conviction. Le calife est fâché. Mais il les réconcilie et les renvoie en Espagne pour que ses affaires continuent, parce que la politique est plus importante que la vengeance. Il faut que ces deux hommes s'arrangent. Et puis il attend quelques mois et il fait rappeler Moussa, seul, devant lui. Et il lui offre une boîte, une simple boîte de bois que Moussa va ouvrir. À l'intérieur, il y a du camphre et une tête. Et le chef des croyants n'a qu'à lui dire « Moussa, reconnais-tu ton fils ?» Peine cruelle. C'est un climat. Vous pouvez maintenant aller chercher des colonnes là-bas, du côté d'Alexandrie, revenir de Grèce, essayer de trouver, même à Constantinople, les plus beaux matériaux. Et vous allez petit à petit fonder le cœur de cette Espagne musulmane. Nous avons décrit déjà dans nos cours ce qu'était Cordoue, mais la naissance de cette première Cordoue, de cette première capitale, le rachat de la petite église de Saint-Vincent aux chrétiens, la façon de placer ces premières colonnes. J'aurais voulu voir cette construction sans les arches wisigothiques, sans cette idée géniale de l'architecte de ne pas mettre qu'un jeu d'arches, mais deux jeux l'un sur l'autre. Avez-vous déjà regardé la palme d'un palmier? C'est vrai qu'une palme monte et juste en dessus, une deuxième est déjà là. Et au fond, l'image d'un palmier, lorsque vous la dessinez de façon simpliste, comme un enfant le ferait, eh bien, vous ne mettez en fait que quatre palmes. Quatre palmes qui suffisent à donner cette énergie au palmier et en même temps à créer cette voussure qui attend déjà la voussure d'à côté, c'est-à-dire le palmier suivant. Vous êtes dans l'oasis, vous êtes à Cordoue, ça n'est plus chez Sénèque, c'est vrai. C'est un autre monde, il y a là des chrétiens, il y a là des juifs, il y a des quartiers. Cette Cordoue incroyable dont on peut encore rêver aujourd'hui, une Cordoue qui va s'entendre pendant pratiquement deux siècles avec tout ce que le monde de l'époque comporte comme différence, comme fidélité et comme infidélité. L'oasis, c'est l'eau. Cordoue, c'est aussi les bains. Les bains, je trouve que c'est peut-être l'élément le plus impressionnant de la culture musulmane. Quand aujourd'hui vous visitez ceux de Cordoue, on vient de les ouvrir. C'est une maison privée. Et puis vous découvrez tout à coup ces arches, cette façon confortable. Vous allez plus haut, vous remontez où il y avait ces oliviers qui tournaient dans le vent et qui devenaient argentés. Vous allez du côté de Jaén. Vous avez au sommet une énorme colline comme cela. Au sommet, un château mauresque. Bah, vous y dormirez ce soir, c'est un parador espagnol. Mais en bas, vous avez la vieille ville, une énorme cathédrale des années 1500, un peu trop grosse. On voudrait l'éliminer, on voudrait revenir à cette époque musulmane. Parce que la Renaissance n'a rien à voir avec cette idée. Et plus loin, vous avez encore une fois des bains. Des bains extraordinaires, où vous rentrez dans ces colonnades. Vous êtes à la fois romain, vous êtes vraiment lascif. Vous attendez les femmes, vous entendez les musiciens. Il y a les étages, comme on les retrouve à Grenade, dans l'Alhambra. Vous mettez les musiciens sur le premier. Vous êtes en bas, il y a le chaud, le tiède, le froid. Un confort absolu. Écoutez le son du thé qui coule dans votre verre. Toujours en Andalousie, mais là-bas, du côté nord, on parle galicien. Il y aura des tremblements à partir des années 1000, des écroulements, l'abandon des grands palais de Cordoue, la chute, je dirais même les déchirements entre musulmans, entre dynasties musulmanes. Et puis, au nord, à cause du chemin de Saint-Jacques, à cause de la naissance de petits royaumes, celui de Navarre, ensuite il y aura le grand Ferdinand le Sage. Ou Alphonse aussi, Alphonse X, qui est également sage. Des hommes qui vont tout d'abord accepter la présence musulmane, l'utiliser, créer des cours déjà beaucoup plus nobles, porter des vêtements plus riches, des brocarts, des choses d'Orient. Et puis, il y aura petit à petit, à partir de ce premier nucléo où on accepte l'idée étrangère, l'idée musulmane, il y aura des répondants un peu plus méchants, des contacts qui vont faire que les conflits vont s'aiguiser et que vous allez pouvoir reprendre d'abord Cordoue en 1236 et puis Séville en 1248. Là, vous allez installer une autre ambiance. La mosquée, bah, vous aurez peut-être envie de la transformer très vite. En quelques dizaines d'années, en moins de deux siècles, tout ce qui était musulman va gentiment être recouvert. Mais il reste quelque chose dans le fond. Il reste une ambiance qu'on ne trouve que dans cette partie de l'Espagne. Une couleur, même de peau, des origines, des gens qui viennent d'ailleurs. On sent l'Italie, on sent encore cette Grèce, on sent encore le côté phénicien, on sent encore le côté oriental, et non pas seulement moyen-oriental. On a l'impression que certaines personnes sont même venues depuis les Indes. Il est impossible d'entendre un rythme, même très contemporain comme celui-là, andalou bien sûr, sans sentir son corps. Tout à coup, l'ondoiement commence, il y a un mouvement. C'est la seule partie d'Europe qui ondoie. C'est la seule partie d'Europe qui a quelque chose du ventre dans sa façon de danser. Et oui, je disais l'Inde tout à l'heure, le gitan nous a apporté quelque chose qui existe peut-être, bien sûr, au Sainte-Marie-de-la-Mer, au moment des grands rassemblements en France. Mais c'est d'abord là, à Grenade, à Séville, à Cordoue, à Jaén, que l'on retrouve vraiment cette chaleur sèche, cet olivier qui se retourne, cette feuille qui est foncée et en même temps brillante, étincelante, presque, qui a ce côté un peu miroitant, clinquant. Une musique cristalline, une guitare, c'est une chose typique de cette région. N'est pas coutume, on pourrait faire des voyages entiers, des longs cours entiers avec des évocations. Bon, Gypsy King, c'est peut-être de manière phonique quelque chose qui est trop contemporain quand on reprend cette idée du 10e, du 11e, du 15e siècle andalou. Mais malgré tout, la musique mozarabe, ce qui nous est parvenu, eh bien tout cela a conservé exactement ce que vous avez senti derrière les Gypsy Kings, c'est-à-dire le rythme, le fond. J'appellerais ça le martinete. Vous avez déjà tapé sur une enclume lorsque vous étiez forgeron? Est-ce que vous avez déjà, une fois ou l'autre, écouté le rythme de votre pédalier, lorsque vous étiez sur un vélo, d'une machine, de votre propre voiture, et tout à coup, du train surtout? Et quand vous êtes dans l'élément rythmique, tout à coup, vous avez votre cœur qui prend un pouls particulier, votre corps qui prend le même pouls, et on rejoint presque l'instrument ou on rejoint le rythme si ce n'est pas notre rythme. Eh bien, c'est un peu ça qu'a inventé le gitan lorsque, pour la première fois, il tapait avec un marteau sur une enclume. Et derrière, vous avez envie de, non seulement mentalement, de claquer les doigts, mais vous allez avoir envie d'accompagner tout cela par une voix. Vous avez envie de créer des vagues à l'intérieur de ces rythmes. Je ne vous fais pas une leçon de musique, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est presque obligatoire que l'on arrive à la saeta, c'est-à-dire ce chant a cappella, et que ce chant a cappella vienne rejoindre le martinete, ce rythme de la forge, et que les deux ensemble, avec quelques cordes supplémentaires, donnent ce son étrange d'une guitare, et puis ce côté rauque, étrangement parlé, on dirait rap aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au fond le flamenco, quand il s'exprime de façon orale, simple, sans instrument, ressemble à ce langage parlé, parce que la tonalité est restée totalement orientale, c'est vrai, mais la rudesse de l'Andalousie et de l'Espagne est communiquée à travers le ton de la voix et les mots utilisés. Même s'il parle d'une ville, même s'il parle de ses amours, eh bien, ceci reste quelque chose de très curieusement sec. Il y a un côté tranchant, il y a du couteau, il y a de la brillance dans la façon de s'exprimer en flamenco. Mais nous étions en fait à Cordoue. Et si j'ai parlé si longuement de cette musique, c'est parce que en évolution, eh bien, elle nous appelle à mieux comprendre d'ailleurs ce croisement qui va se faire avec les nouveaux catholiques, c'est-à-dire cette envie du Nord de repousser l'infidèle. On va passer le cap de 1492-1492, on va oublier Grenade, même si ça reste le point d'ancrage le plus magique de toute l'Espagne, entre ces deux mondes, entre ce monde musulman et ce monde chrétien. Mais immédiatement, on va saisir que de vouloir manger ce fruit trop mûr, trop beau de l'Andalousie, cet El Andalus qu'a inventé le musulman, il a créé en fait le paradis sur terre. Il a trouvé le seul endroit d'Europe où il y avait de l'eau, où il y avait de la chaleur, où il y avait tout ce qui était tropical et qui pouvait refaire, enfin, qui a fait vraiment penser aux origines arabes, mais aux origines arabes non pas désertiques, celle dont on rêve dans le désert, c'est-à-dire l'oasis lui-même. Toute l'Andalousie est une forme d'oasis, avec en même temps cette âpreté du désert. Parce que quand vous êtes dans l'Alpujarra, quand vous tournez un western dans cette partie de l'Andalousie, vous vous dites qu'il existe un désert en Europe et qu'il est là. Mais si vous pensez à l'exotisme, vous vous dites qu'il existe là aussi, cet exotisme. Dans les superbes plaines de la Vega de Grenade ou du Guadalquivir dont on parlait tout à l'heure. J'ai remis cette ambiance, ce moment, pour comprendre qu'au fond, toute l'Espagne va avoir envie de croquer ce fruit-là. Vous y êtes ? Et vous allez voir que ce fruit, nous l'avons fait déboucher de l'Afrique, de Gibraltar, et qu'en fait, en le poussant dans ses retranchements, en allant du côté de Cordoue, en suivant la ligne même du Guadalquivir, eh bien, on va s'exprimer sur le côté atlantique. Et au fond, c'était normal que la voie absolue vers l'au-delà du monde passe par ce fruit. Vous venez d'Estramadur, vous venez des déserts du Nord. Là, vous êtes vraiment l'Espagnol, celui que vous voyez arriver par le train à la gare. Celui qui vient avec une simple valise en carton bouilli. Celui qui est vraiment né dans les endroits les plus pauvres de cette péninsule. On était portugais, on était espagnol, on était galicien basque, ça n'avait aucune importance. C'était une péninsule complète. Eh bien, au lieu de partir par l'étranglement des Pyrénées, comme on le fait maintenant, eh bien, on a tout à coup songé qu'El Andalus en bas. C'était le début d'un pactole. Pourquoi ? Parce que tout à coup, une petite coquille de noix avait traversé et avait trouvé, soit par Lisbonne, soit par ce Guadalquivir, une petite touche de métal précieux, un peu d'or, des esclaves noirs, des plumes, du tabac, des épices. Encore de l'exotisme, vous avez envie de suivre. C'est un appel incroyable. Des milliers d'hommes, des millions d'hommes pauvres de toute cette péninsule vont déferler sur ces ports. Vous y êtes ? Le deuxième voyage de Colomb, vous partez ? Vous êtes déjà 17 000 à faire le grand saut. Je vous assure, New York, que vous connaissez en photo à la Belle Époque, avec une statue de la liberté, comme la chanson tout à l'heure des Gypsy King, eh bien, c'était ça aussi, cet appel du grand large de cet Atlantique. Mais maintenant que vous avez saisi à partir de Scipion, à partir de cette âpreté de départ, mais en même temps cette richesse incroyable qui fait qu'Italica est là, que Cordoue était là, que les villes les plus fantastiques de l'Europe ont été construites là, en Andalousie, eh bien vous comprenez mieux pourquoi c'est aussi de là que vont partir tous les rêves des aventuriers. Une cour des orangers, un parfum, des fleurs. Vous savez, ces oranges ne sont pas... Non, ce ne sont pas celles que vous mangez d'habitude. Ce sont ces... Comment s'appellent-elles, en fait, ces oranges amères qu'on utilise chez les Anglais pour faire des marmelades un peu particulières? Des tangerines, justement. Et oui, c'est celles que vous voyez là, dans cette cour des orangers à Séville. Vous sentez leur parfum étrange. Vous avez encore les vasques, comme si vous étiez encore musulman. La mosquée a disparu, mais vous levez les yeux et vous tombez sur la Giralda. Vous prenez votre cheval blanc. Oh, vous êtes accompagné. Nous sommes deux. Vous rentrez par la porte de cette tour et vous montez au sommet de la tour avec votre cheval. Comment ? Eh bien parce que lorsqu'on a construit la Giralda, ce minaret de l'époque, on a créé une rampe très douce qui tourne à l'intérieur en carré bien sûr, et petit à petit vous allez grimper. Vous pouvez prendre votre cheval, admirer la plus belle ville du monde. Là, je suis juste entre ces deux mondes. Je viens d'abandonner la ville aux chrétiens, et puis elle est reprise. Maintenant, je peux être moi-même chrétien montant sur cette tour, admirant la deuxième cathédrale du monde en surface, en dimension, avec des chaînes autour qui vous assurent ce côté, je dirais dédouané, parce que la foi est aussi une protection. Et puis, vous avez juste à côté... Vous la voyez maintenant que vous êtes au sommet de la Giralda, vous voyez le Guadalquivir un peu plus loin, vous voyez la Tour d'Or qui est encore musulmane, mais vous voyez ce nouveau carré qui a été construit quelques mois après la découverte de l'Amérique. Ce que vous appelez aujourd'hui les archives des Indes, c'est-à-dire la Casa de Contratación. Cette casa, cette maison qui a été fondée par Isabelle la Catholique pour contrôler tout ce qui se trouve dans le monde. La petite coquille de noix qui part là juste à côté de la Tour d'Or va partir jusqu'à 10 000, 12 000 kilomètres, et pourtant, dans cette maison, la Casa de Contratación, on saura exactement ce que vous faites, avec qui vous le faites, si vous avez bien payé le quin royal, si vous avez commis un acte ou un délit qui peut être puni. 6 mois après, la nouvelle reviendra par la caravane de Caravelle sur les mers, et 6 mois après, on vous condamnera et on vous tranchera la tête là-bas, à l'autre bout du monde. Vous êtes à Tlaxcala, vous avez été Cortés, vous êtes franciscain, vous venez de décider de supprimer un site précolombien et vous construisez une cathédrale. Obligatoirement, à la première époque, elle sera dessinée, elle sera surtout donnée et dessinée au nom d'un saint qui n'est pas un saint espagnol. Elle aurait pu être dominicaine, bien sûr, et mon Dieu, si les dominicains sont espagnols avec leur allure, ce blanc, ce noir, ce côté altier, ce côté encore chevaleresque, un peu dédaigneux. On pourrait parler aussi de cette formule religieuse de l'époque. Non, ce sont des franciscains, des gens qui ont osé prendre ces coquilles de noix, qui ont osé penser tout à coup que le millénarisme pouvait exister. Une idée fantastique qui était née sur le chemin de Saint-Jacques, dans un calice, dans une idée un peu alchimique ou alchimiste, c'est-à-dire cette volonté de se dire qu'en lisant l'Apocalypse, il suffirait peut-être d'évangéliser ces gens qui sont là-bas. Ce nouveau monde s'est appelé en fait Nouveau Monde parce que justement, un chrétien de l'époque avait inventé cette idée millénariste. Je disais lire l'Apocalypse. Ceci signifie que tout à coup, on se rendait compte que ce qu'un chrétien du Moyen-Âge pouvait attendre, c'était naturellement la fin du monde, le jugement dernier. Et pourquoi chercher le jugement dernier ? Eh bien parce que avant le jugement dernier, il y aurait 1000 ans. 1000 ans absolument merveilleux, où la Terre allait vivre de façon harmonieuse et extraordinaire. Et c'est vrai qu'en définitive, l'idée des franciscains, c'était de découvrir ce nouveau monde, d'évangéliser tout un continent, toute l'Amérique, afin d'être sûr que ce déclic millénariste pourrait intervenir et que tout à coup, le paradis serait sur Terre. Imaginez-vous partir à 12 comme au Mexique, construire le couvent de Saint-François, là-bas à Tlaxcala, avec un plafond tout de cèdre, avec de l'or, comme si vous étiez à Cordoue, comme si vous étiez encore musulman, du véritable art mozarabe, là-bas à 10 000 kilomètres de votre patrie, uniquement au milieu de millions d'Indiens avec des plumes, c'est là que vous allez baptiser les premiers seigneurs du Nouveau Monde, dans cette petite église. Dans cette église qui a gardé ce côté tellement hispanique, un coup de vent dans les ahuehuetes, ce ne sont plus des oliviers, il n'y en aura pas au Mexique, parce que la concurrence oblige, on va vous interdire l'olive, le vin, des produits qui sont là-bas, très loin, en Espagne, et qui roulent dans des tonneaux, qui bougent à l'intérieur de la cale, sur une petite coquille de noix, qui maintenant crée le contact entre vous, ici, à Tlaxcala et là-bas, la Casa de Contratación à Séville. Depuis la mer, depuis Veracruz, vous vous êtes installé là, au pied des volcans, dans des terres sèches. C'est drôle. En regardant autour de vous, il n'y a pas d'olivier, mais ça ressemble à la Castille. Ça ressemble à l'Estramadure. Ça ressemble à votre terre pauvre. Vous êtes au Mexique. On l'a appelé Nouvelle-Espagne. Et oui, à Tlaxcala, là devant ce couvent, vous ressentez exactement ce que vous ressentez là-bas. À 10 000 km. C'est étrange, cette impression physique de se ressentir dans le même climat. Ce n'est pas que l'homme ait transformé l'endroit, c'est que l'endroit est semblable. Et j'aimerais vous emmener d'un seul coup. Descendez à Veracruz une fois de plus, reprenez une autre coquille de noix, longez les côtes. Allez, passez près de Cuba, vous pouvez vous arrêter quelques heures à La Havane. C'est encore une escale impossible. Et puis vous descendez sur le Darién, vous êtes à Panama. Ah, vous devrez descendre. Vous allez traverser la jungle. Vous allez vous retrouver comme Magellan. Attention, votre chien court devant vous. C'est lui qui va poser la patte le premier dans le Pacifique. Vous êtes en 1513 et puis vous pourriez, plus tard bien sûr, imaginer le fait de descendre doucement cette côte. D'abord de la Colombie, ensuite de l'Équateur. Il y a encore un côté tropical. Il y a tout à coup du désert et puis vous voulez monter. Vous voulez chercher ailleurs. Ce climat qui vous manque, cette Espagne, vous la trouvez un peu partout, dans toutes les villes qui sont vraiment coloniales au Pérou. Même si Saint-François, le grand couvent de Saint-François de Lima, parce que Lima c'est quand même la porte qui va vous ramener vers l'Europe, vers cette Casa de Contratación, eh bien là, on y a découvert il y a quelques années, est-on sûr de cela? Ça n'est pas très grave, on y a découvert des tableaux qui font penser à ceux de Zurbarán, ce peintre andalou. Peut-être le plus andalou de tous les peintres de cette époque. Un peintre qui avait saisi que dans son pays il y avait lumière, qu'il y avait brillance, qu'il y avait tout ce qui fait le satin, quelque chose qui répond très fortement. Regardez sa palette, regardez sa façon d'avoir cartonné, d'avoir un peu broyé les tissus afin que on sente en même temps cette matière intérieure de l'Espagne. Il y a peu de peintres. Velázquez, c'est trop universel. Velázquez est trop grand. Peut-être Picasso, où l'on ressent cette âpreté dont je parlais tout à l'heure. Revenez à Sénèque, revenez au Taureau, revenez à ce jaune, à ces oliviers, à cette feuille qui tourne, brillante d'argent d'un côté, et verte, mais un vert sombre, un vert un peu prenant, un vert qui est presque angoissant si on regarde vraiment la couleur, cette couleur elle-même. Quand on arrive en bateau jusqu'à Callao et qu'on pénètre petit à petit dans cette capitale incroyable qu'est Lima, qu'était Lima parce que c'est une ville qui n'a plus grand-chose de son passé colonial, imaginez-vous vice-roi après tout. Il n'y a que deux vice-rois sur tout le continent. Un qui vit là-haut à Mexico, vous qui vivez ici à Lima, vous êtes le plus riche après celui d'Espagne, un triangle sur la carte. Et vous avez, au cours des années 1600-1700, vous avez le pays le plus riche du monde. Vous avez créé une voie royale qui part de Lima, qui va vers le sud, qui remonte vers Arequipa, qui va jusqu'au Titicaca et qui arrive enfin à Potosí. Potosí, c'est une montagne d'argent. Une montagne d'argent, on a commencé avec quelque chose comme 900 ou 1000 kilos à l'époque des Incas, au moment où on a pris l'Inca, et on va terminer avec 3 millions de kilos d'argent. De l'argent que vous arrivez à, eh oui, à sortir du minerai parce que vous irez chercher le mercure à Huancavelica, ce mercure qui, avant 1572, avant de Toledo, avant la vice-royauté, venait de là-bas, de l'Espagne, de cette seule grande mine de mercure. Un métal qui va faire mourir des milliers d'hommes qui marchent dans cette boue afin de créer cet amalgame pour que le mercure s'évapore et que l'argent devienne pur, commence à se purifier. Et finalement, vous allez le renvoyer 1500 km depuis Potosi jusqu'à Lima. Et puis ensuite, vous retournez à Panama, à Veracruz, et vous retournez vers la Casa de Contratación, là-bas, à Séville. Vous, comme vice-roi du Pérou, comme premier vice-roi à avoir découvert cette nouvelle formule argentifère, vous, comme un de Toledo, vous allez construire un palais où vous ne vivrez jamais là-bas, en Andalousie, du côté d'Úbeda. Úbeda, une ville qui se trouve tout près des Oliviers, tout près de Jaén. Et vous la voudrez belle, cette ville. C'est peut-être la plus belle ville-musée du XVIe siècle de toute l'Espagne. Vous rentrez dans Úbeda, vous croisez une dizaine de mules à l'abreuvoir. Il y a une porte, vous savez qu'Isabelle la catholique a passé dessous juste avant de partir vers Grenade. C'était sa presque sa dernière étape. Et puis, vous allez pénétrer dans une ville où il y aura un palais à la Bramante, incroyablement italien. À votre droite, une église du Saint-Sauveur avec une qualité plateresque incroyable, avec un retable de Siloé qui a souffert sous la dernière tempête espagnole au moment de la guerre civile. Un hôtel. L'hôtel qui appartenait au Davalos, une maison ancienne où vous voudrez vivre en donnant sur la cour. La nuit, il y aura une dernière mule aux alentours de 10 heures qui passera en claquant ses sabots sur un sol à peine brillant sous la lune. Et puis, vous aurez en face de vous une tour, une belle tour carrée, une forme encore un peu mauresque, mais bien assise, bien moyenâgeuse, quelque chose qui vous fait penser à du romain, à du visigothique. À du flamenco. Et pourtant, c'est le palais, le grand palais d'un vice-roi du Pérou, qui, à travers l'or, à travers l'argent, a pu s'offrir, sans jamais l'avoir visité, ce petit morceau de terre natale, tout en vivant à Lima et en étant là-bas en même temps, c'est-à-dire en Andalousie, de l'endroit où tout le monde était parti, d'où s'est forgé le monde, le nouveau monde. La carte que je regarde est une carte uniquement parce qu'il y a des villes comme Úbeda où tous les monuments sont de cette époque fabuleuse qui va créer l'éclatement planétaire. C'est vrai, un peu d'eau, une coquille, quelques restes d'olivier en tête, un climat qu'on cherche absolument à retrouver ailleurs, au Mexique, au Pérou, en rêvant absolument de ce qu'est l'Andalousie. Thank you.
Thank you.